RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage. Aujourd'hui au Kenya, le pays toujours plongé dans une crise politique quelques semaines après un second scrutin présidentiel. La première élection avait été annulée le 1er septembre par la Cour suprême pour illégalité, irrégularité. Mais alors qu'il venait de remporter sa bataille juridique contre la réélection d'Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, opposant historique, s'est retiré de la course à la présidentielle bis et a appelé au boycottage du scrutin. Dans son fief de Kisumu, à l'ouest du pays, les bureaux de vote n'ont même pas pu ouvrir, comme dans une vingtaine de circonscriptions de la région. Une situation qui semble révéler un pays profondément divisé et qui met à mal la légitimité de l'élection du président Uhuru Kenyatta. Kisumu, la ville qui ne voulait pas voter. Grand reportage, signé Laure Broulard.
Le terrain de football Kenyatta Grounds, au centre du Kisumu, est désespérément vide. Lors de la première élection en août dernier, il abritait pourtant les tentes du plus grand bureau de vote de la ville. Des milliers de personnes avaient fait la queue pendant des heures pour mettre leur bulletin dans l'urne. Mais aujourd'hui, 26 octobre, jour de la présidentielle bis, seul un petit groupe de jeunes erre sur la terre battue, ou plutôt patrouille, explique Froze Otieno.
Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne qui vote. Je suis ici pour surveiller. S'ils amènent du matériel électoral, on le détruira. Parce que notre capitaine nous a dit qu'il ne doit pas y avoir d'élection dans notre pays. Donc nous lui obéissons.
À côté de lui, Isaac Owino, un conducteur de taxi-moto d'une trentaine d'années, renchérit.
Si des élections crédibles et transparentes doivent se tenir, elles ne peuvent être organisées par la commission électorale actuelle. Ces gens sont contrôlés par le gouvernement. Nous savons bien qu'ils vont annoncer la victoire d'Uhuru Kenyatta. Mais vous savez, selon la loi kenyane, si l'élection ne se tient pas dans une seule circonscription, l'élection devrait être annulée. Et nous espérons qu'elle ne se tiendra pas dans au moins 5 circonscriptions. Et à partir de maintenant, nous ne suivrons plus la loi, mais les actions ordonnées par notre leader Raila Odinga.
What has been told by our leader Raila Odinga yesterday?
Patrouille de militants, bureaux de vote scellés, barrages de routes qui quadrillent toute la ville pour empêcher le transport du matériel électoral. Le boycottage de l'élection est savamment organisé et très efficace. À la sortie du centre-ville se trouve le centre de comptage des voix de l'école Lyons, qui devait faire office de bureau de vote. Là aussi, aucun votant, une dizaine de policiers sont affalés, endormis sur des chaises en plastique, et une poignée d'agents de la commission électorale patiente, le regard perdu, parfois terrorisé.
Moi je m'appelle Omolo, je suis agent de la commission électorale dans la circonscription du centre de Kisumu. Je devrais être en poste au bureau de vote du Gwan Institute à Milimani, mais actuellement, on n'est pas encore au centre de comptage des voix. On ne peut pas transporter le matériel électoral. Malheureusement, à l'heure qu'il est, les bureaux de vote devraient déjà être ouverts. 399 agents de la commission électorale devraient être en poste, mais ce n'est pas le cas. Nous craignons pour notre vie. D'ailleurs, vous me voyez ici, mais je me prépare à rentrer chez moi.
Quel est votre sentiment en voyant tous ces bureaux de vote fermés dans votre ville aujourd'hui?
Écoutez, c'est très malheureux parce que moi je pense que chacun a le droit de voter ou de ne pas voter. Et même si les électeurs de cette région ne souhaitaient pas participer parce que leur leader leur a ordonné, l'élection aurait dû pouvoir se passer comme prévu. Et ils auraient pu juste rester chez eux. Mais là, les rues sont bloquées, les gens ont peur, ce n'est pas facile. Et dehors, la situation est très tendue.
Venant de la rue, on entend des cris et des insultes. Depuis des semaines, les partisans de l'opposition manifestent pour exprimer leur opposition à la commission électorale et à la tenue des élections.
Je demande à tous les Kenyans de rester à l'écart des bureaux de vote. Et même les agents de commission électorale, ils ne devraient pas travailler. Ils sont en danger, car Raila Odinga ne participe pas à cette élection. Et ici, c'est un fief de l'opposition, le fief de Raila Amolo Odinga. Et si Raila dit qu'il n'y a pas d'élection ici, alors il n'y a pas d'élection.
Si Raila dit qu'il n'y a pas d'élection ici, il n'y a pas d'élection.
Opération réussie, le scrutin n'aura finalement pas pu se tenir dans 25 circonscriptions de l'ouest du pays, car ici, la parole de Raila Odinga fait loi. Baba n'est pas un simple politicien, il est aussi un chef tribal portant les espoirs politiques de la communauté Luo, une des 44 tribus kenyanes qui représentent environ 10% de la population du pays et qui se considère comme exclue du jeu politique kenyan depuis des années, comme l'explique Matt Karotenuto, historien à l'université de St. Lawrence.
Il y a deux tendances au sein de l'opposition. Il y a d'un côté les partisans de Raila Odinga dans l'ouest du pays, et de l'autre les partisans de la coalition de l'opposition NASA dans le reste du Kenya. Clairement, dans l'ouest du pays, le soutien à Raila Odinga est beaucoup plus intense. Il faut dire que la majorité des Luo soutiennent la famille Odinga depuis 1957. D'abord, le père Jaramogi Oginga Odinga de 1957 aux années 90, puis le fils Raila Odinga. Et il y a une perception, et c'est sûrement plus une perception qu'une réalité, selon laquelle les Luo auraient été mis à l'écart du pouvoir politique depuis 1966, car à l'indépendance en 1963, le père d'Uhuru Kenyatta et le père de Raila Odinga étaient alliés, puis ils se sont opposés sur des différends idéologiques concernant l'économie ou encore le socialisme africain. Et le nouveau parti de Raila Odinga, le KPU, a été la cible d'une répression violente. La tension a atteint son paroxysme en 1969 lorsque le premier président, Jomo Kenyatta, s'est rendu à Kisumu pour inaugurer un hôpital. Il a été accueilli par des jets de pierre et la police a répondu très violemment. Juste avant, il y avait eu l'assassinat d'un éminent politicien Luo, Tom Mboya. Depuis, la communauté a glissé vers l'opposition et s'est toujours sentie pour cela exclue des politiques de développement du pays.
Un sentiment renforcé par plusieurs élections soulevant des soupçons de fraude. Raila Odinga a contesté la victoire de Mwai Kibaki en 2007. Après des violences post-électorales qui ont fait plus de 1000 morts, il sera finalement Premier ministre dans un gouvernement d'union nationale. Vaincu une nouvelle fois en 2013 par Uhuru Kenyatta, il dénonce des fraudes, tout comme en août dernier, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Aujourd'hui, la défiance des Luo de Kisumu envers la commission électorale, mais aussi envers les tribus Kikuyu et Kalenjin, dont sont issus tous les présidents kényans depuis l'indépendance, est à son comble.
Bien, donc nous pouvons poursuivre la séance sur la présidentielle bis.
Peter Royer est président du Sénat populaire de Kondélé, un bidonville de Kisumu. Debout au milieu d'une trentaine d'hommes de tous les âges, dans une petite baraque de bois à l'écart de la circulation, il modère les débats de cette assemblée qui rassemble des représentants du quartier.
Chers membres du Sénat, vous pouvez maintenant vous exprimer et revenir sur le scrutin d'hier.
Merci, Monsieur le Président, de me donner l'opportunité. Le président de la commission électorale, Monsieur Chebukati, est complètement confus. Il se contredit. Il nous dit que le taux de participation est de 48%, alors qu'au début, il avait dit qu'il était de 33%. Il nous donne de fausses informations. C'est pour cela que nous sommes si en colère, contre ces soi-disant élections. Nos droits démocratiques sont floués.
Ce que nous disons est très clair. Le Kenya est plus grand qu'une simple personne. Nous organiserons de nouvelles élections si Uhuru Kenyatta démissionne. En 2007, ils nous ont volé les élections. En 2013, ils ont fait la même chose. Et le 8 août dernier, ça a été la même chose.
Merci, honorable sénateur. Quelqu'un d'autre ?
Oui, merci. Je veux m'adresser aux médias avec force, parce que nous, les habitants de Kisumu, nous ne sommes pas contents. Ici, nous avons décidé de ne pas voter, et c'est la police qui crée le chaos. Ce sont eux qui nous dérangent. Qu'ils s'en aillent. Nous ne voulons pas de bulletin de vote ici. Pourquoi ils nous forcent la main ?
On ne peut pas comparer un vote à une vie humaine. Uhuru Kenyatta ne respecte pas la vie humaine. Il ne devrait pas prendre les gens pour des insectes, comme si leur mort ne comptait pas. Ce sont des humains. Faudrait-il qu'un Kikuyu meure pour qu'il le réalise ? Parce que les Luo sont aussi des humains. Nous sommes aussi des enfants de Dieu, tout autant que les Kikuyu. Et donc j'ai un message pour le gouvernement. Ils ont le sang des gens qui meurent aujourd'hui sur leurs mains. Et cela les hantera dans ce monde-ci ou dans l'autre.
Oh,
Les violences policières sont au cœur de la crise. Depuis août, entre 40 et 70 personnes seraient mortes sous les balles de la police dans le pays, selon les organisations de défense des droits de l'homme. Les bastions de l'opposition, comme certains bidonvilles de Nairobi et l'ouest du pays, sont particulièrement touchés. Dans les petites chambres de l'hôpital Jaramogi Oginga Odinga, tous les lits sont occupés. Une jeune femme qui a préféré rester anonyme pleure au chevet de son mari qui a une plaie au torse.
Il y a un terrain de football où ils s'entraînent normalement à Niawita. Donc à ce moment-là, il était assis avec un ami à attendre que le match commence. Et là, il a senti qu'on lui tirait dessus dans la poitrine. Il est tombé et l'ambulance est venue le chercher. Moi, j'étais à la maison et on m'a appelé pour me dire de venir voir mon mari. J'étais très inquiète car j'ai une fille de 4 ans et c'est lui qui subvient à nos besoins. Je ne sais pas comment nous allons survivre. Je ne sais pas du tout.
Bernard, lui, peut enfin rentrer chez lui, mais il a encore la joue très enflée et a du mal à parler.
Mon nom est Bernard, j'ai 23 ans. Avant-hier, je me trouvais au centre communautaire de Kopéré et je m'apprêtais à rentrer à la maison. Et là, j'ai croisé un groupe d'émeutiers et puis la police qui les suivait. Et un des policiers a cru que je faisais partie des manifestants et m'a tiré dessus. La balle est rentrée là, au-dessus de ma lèvre, et elle est ressortie là, près de mon oreille.
Les médecins de cet hôpital affirment avoir traité 10 blessures par balle, des personnes ayant été battues par la police et d'autres ayant été piétinées lors des émeutes. Betty Okero travaille pour un réseau d'ONG à Kisumu. Elle connaît bien ces violences qui, dit-elle, renforcent la défiance des communautés envers le gouvernement.
Il y a toujours une différence dans la manière dont la police gère les manifestations ici et ailleurs. On dit aux policiers qu'ils vont faire face aux militants les plus extrêmes. C'est un stéréotype. Mais quand les forces de police arrivent ici, elles ne viennent pas pour dialoguer ou pour négocier. Elles viennent pour écraser, pour donner une leçon. Du coup, la communauté grandit avec l'idée que la police est un ennemi. Et en réponse, la communauté dit « nous devons nous défendre ». Et quand on entend des gens dire que la police vient les attaquer jusque dans leur maison, alors qu'ils ne sont pas en train de manifester, eh bien, cela vient encore renforcer ce discours.
Les violences policières sont ainsi devenues un jalon important du discours politique de l'opposition. La NASA n'hésite pas à parler de génocide des Luo. Une preuve de plus pour le parti de Raila Odinga de la victimisation et de l'exclusion de la communauté. Kisumu, du point de vue de ses habitants, c'est donc la ville rebelle, la ville écrasée, la ville laissée à l'abandon. Quentin Mercurol vient de soutenir une thèse de géographie sur Kisumu et son inclusion dans l'espace national.
Cette crise urbaine, elle prend une tournure un peu particulière à Kisumu dans la mesure où le vécu des citadins, donc l'échec dans l'emploi, ou simplement la décrépitude de l'environnement physique, est souvent interprété de manière commune en la liant à cette idée de déclin Luo qui donc est interprétée localement à Kisumu comme une conséquence de la marginalisation politique. C'est en grande partie vrai, hein. Si comparativement à des villes comme Eldoret ou Tika, c'est éminemment vrai. Un exemple intéressant, ce serait la localisation des infrastructures aéroportuaires au Kenya. On peut voir que donc Kisumu est l'un des premiers aérodromes à l'époque de l'Afrique de l'Est. Hein. Dès les années 10, on a un aéroport qui est à Kisumu, qui avait donc un rôle très important dans la route du Cap au Caire. Et on voit que dans les années... À l'élection de Moy, à la fin des années 70 et des années 80, un aéroport international est construit pour l'ouest kényan, donc après ceux de Nairobi et de Mombasa, mais non pas à Kisumu, mais à Eldoret. Eldoret n'a jamais eu de passé aéroportuaire, n'a jamais eu de fonction aéroportuaire importante, mais c'est pourtant donc dans cette ville, la ville importante du pays Kalenjin, donc du président Moy, qui va accueillir une infrastructure aéroportuaire internationale. On peut le voir aussi par un indicateur qui est très, très simple, c'est le taux de pauvreté urbaine, qui est largement plus important à Kisumu que dans des villes comme Mombasa ou Nairobi. Après, c'est plus complexe, dans la mesure où, pour faire le lien avec plus récemment aujourd'hui, on a Kisumu qui redevient un petit peu une centralité dans l'espace logistique kényan avec, par exemple, une branche de ligne de chemin de fer qui va venir, dans pas très longtemps, connecter Kisumu à un réseau de chemin de fer plus performant, qui, donc, pour retrouver un petit peu la centralité de Kisumu dans l'espace est-africain. Et ça, ça se fait aujourd'hui, et c'est des investissements qui sont absolument colossaux. Donc, c'était assez intéressant, récemment, de voir encore ces discours de la marginalité qui réémerge alors qu'on n'a jamais eu aujourd'hui autant d'investissements de cette ampleur dans la ville de Kisumu.
La marginalisation de la tribu Luo est donc à relativiser, surtout par rapport à d'autres communautés, comme celles vivant dans le nord-est du Kenya, une région bien moins développée que le reste du pays. Tous les yeux sont rivés sur le poste de télévision. La population est venue regarder l'annonce des résultats de la présidentielle bis dans un bar du centre-ville. Uhuru Kenyatta est réélu avec plus de 98% des voix. Assis devant un plateau de Nyama Choma, le plat national, Benson Orero est amer.
Pour nous, c'est seulement le couronnement d'un roi. C'était ce qu'il voulait, ce n'était pas ce que nous voulions. Nous aurions bien participé, mais le processus était vicié.
À votre avis, que va-t-il se passer maintenant ?
Eh bien, à l'heure actuelle, le pays est divisé. C'est une réalité. Parce que cette région contribue à l'économie. Nous sommes Kenyans. Nous ne sommes pas des invités dans ce pays. Et pourtant, une partie du gouvernement marginalise cette région. Donc je pense que nous nous dirigeons vers une forte inertie dans ce pays. Sauf si les gens au pouvoir se mettent autour d'une table avec l'opposition, sur un pied d'égalité. Il faut que nous trouvions d'où vient le problème.
Alors que la victoire d'Uhuru Kenyatta est une nouvelle fois contestée devant la justice, l'ouest du pays est engagé dans le mouvement de résistance nationale lancé par l'opposition. Les leaders politiques et religieux de Kisumu vont même jusqu'à brandir la menace d'une sécession. Car selon les mots de l'évêque David Kodia, la région ne participera pas à un mariage forcé. Le peuple a parlé, la mariée a dit non.
Kisumu, la ville qui ne voulait pas voter. Grand reportage signé Laure Broulard, réalisation Pierre Chaffangeon.
Ay, 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 tera de abaquizo.